franceinter.fr.
Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Prolifération nucléaire, la bombe pour tous.
Ici la Défense nationale, voici en toute première mondiale, puisque c'est le document original que nous vous faisons entendre, le bruit de l'explosion de la première bombe atomique française.
Certains des pays qui aujourd'hui veulent se doter de l'arme nucléaire, je ne parle évidemment pas de la France qui a été parfaite en tout domaine et s'est suffi à elle-même, ne peuvent parvenir à leur fin avec leur seule compétence nationale. Il leur faut bénéficier de transferts technologiques que la réglementation internationale contraint à masquer. La revendication d'un côté, la clandestinité de l'autre, c'est une première contradiction dans le paysage nucléaire. Et en voici une seconde. Les Occidentaux imaginent volontiers un monde libéré des armes nucléaires, alors qu'en Asie, les arsenaux militaires augmentent au moins au même rythme que la croissance. Sur ce continent couvent bien des feux qui peuvent devenir très dangereux. Ainsi, celui de la bombe iranienne, ce sera un des principaux dossiers internationaux des mois à venir. L'avenir nucléaire est une énigme. Quant au passé, demeurent bien des questions sur la construction du danger nucléaire. Et puisque nous sommes toujours en vie aujourd'hui, sur son évitement jusqu'ici. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la Fondation pour la recherche stratégique qui est sise rue des Pâtures. C'est tout près de la maison de Radio France.
C'est tout près, effectivement.
Avec... Superbe adresse.
Oui.
D'habitude, on vous demande de prévoir la prolifération nucléaire, c'est pas très facile non plus de prédire ce qu'aurait pu être l'histoire en ce domaine.
Ah, évidemment, on peut s'intéresser à un certain nombre de crises qui ont lieu au temps de la guerre froide. On peut se dire que se serait-il passé si tel ou tel dirigeant, à tel ou tel moment, pendant la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, se serait passé si finalement on avait employé l'arme nucléaire, si on avait brisé ce tabou, puisqu'elle n'a pas été utilisée depuis 1945. Bah, c'est toujours difficile de faire de l'histoire a posteriori, mais je crois qu'il y a au moins un moment où on est quand même vraiment passé près de la catastrophe. C'est la crise de Cuba dont on a fêté le cinquantenaire très récemment.
Donc vous avez fêté le cinquantenaire tout récemment. Avant qu'on en vienne à Cuba,
pardonnez-moi. Enfin, en tout cas, on a fêté le cinquantenaire de son issue heureuse.
Je fais de l'histoire, je vais vous faire remonter encore plus en amont. Je parlais de transfert de compétences. Est-ce qu'il y a eu un transfert de compétences de l'Allemagne nazie dans le domaine nucléaire? Comme on l'a dit, certains prétendent que l'Allemagne de Hitler était plus avancée qu'on ne le croit.
Ah, il y avait effectivement les rudiments d'un programme nucléaire d'Hitler, de l'Allemagne nazie. Et c'est d'ailleurs... Pourquoi est-ce que les Américains lancent le projet Manhattan en 1943 ? Parce qu'on craint que l'Allemagne nazie ait l'arme nucléaire avant les autres. Et c'est pour ça que le projet Manhattan est lancé. En fait, ce programme était extrêmement rudimentaire. Ce n'était pas du tout l'équivalent, justement, de ce que sera le projet Manhattan américain. Mais est-ce qu'il y a eu effectivement des données allemandes qui ont alimenté le programme américain? Mais oui, tout à fait. En fait, il y a deux choses très différentes et presque opposées. C'est assez intéressant de voir que le programme nucléaire américain, il a été nourri, et il a été énormément nourri par des entrées, par des savoir-faire de savants juifs européens d'Europe de l'Est et d'Allemagne qui ont fui, bien sûr, le régime nazi. Et donc, ils avaient une motivation personnelle particulièrement grande pour éviter que les États-Unis fassent à une Allemagne nazie nucléaire. Et il y a eu, par ailleurs, après la guerre, une récupération de tous les savants allemands qui avaient travaillé dans le programme de fusées, les V1 et les V2, Werner von Braun en premier, qui a été d'ailleurs ensuite le père, enfin l'un des pères du programme Apollo. Donc si vous voulez, le nucléaire américain, la première bombe atomique, elle hérite largement du savoir-faire des savants juifs qui fuient le régime nazi. Et en revanche, les fusées qui vont servir ensuite à transporter pas seulement des hommes sur la Lune, mais aussi aussi des ogives nucléaires. Alors, elles ont bénéficié du savoir-faire des gens qui travaillaient pour le programme de fusées nazies.
Docteur Follamour, le film de 63, juste après la crise de Cuba, signé Stanley Kubrick. On voit un savant nazi, c'est plus fort que lui. Et chaque fois qu'il voit le président, il fait le salut hitlérien.
Depuis plus d'un an, des bruits alarmants circulaient sous le manteau parmi les hauts dirigeants du monde occidental. L'URSS, disait-on, préparait quelque chose que l'on supposait être l'arme nucléaire suprême. Le contre-espionnage avait réussi à repérer l'emplacement où s'élaborait le projet ultra-secret des Russes. Une terre arctique, perpétuellement enveloppée de brouillard, au pied des montagnes des îles Okhotsk. Ce qui se construisait dans ce lieu reculé et désertique, personne ne le savait.
Vous estimez donc qu'il est possible qu'il possède vraiment un tel engin ?
Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire, même de la plus petite. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire. La machine infernale est terrifiante.
Eh bien, mes enfants, ce coup-ci, ça y est. Les dés sont jetés, c'est le corps à corps atomique avec les Ruskov.
Ce film, il est parcouru d'un frisson rétrospectif. Il a lieu l'année d'après, il est tourné l'année d'après, la crise de Cuba.
Oui, et on sait maintenant, on ne savait pas à l'époque, parce que tout n'était pas ouvert, on était dans une société beaucoup moins transparente, et puis les langues ne se sont déliées que très lentement. On avait déjà conscience en octobre 62 d'être passé effectivement assez près de la catastrophe, mais ce qu'on ne savait pas, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est à quel point on est passé près d'un désastre nucléaire, peut-être mondial. Ce qu'on ne savait pas, par exemple, c'est qu'il y avait des petites armes, des petites fusées tactiques, qui étaient déployés à Cuba et qui n'avaient pas de code particulier. Si vous voulez, il aurait été possible pour les troupes soviétiques et peut-être même par les troupes cubaines de s'en servir contre une force américaine d'invasion, par exemple. Ce qu'on ne savait pas non plus, c'est que Fidel Castro, dans sa correspondance avec Khrushchev, encourageait l'Union soviétique à utiliser l'arme nucléaire. Il disait même, il écrit même, tant pis, Cuba disparaîtra, mais le socialisme vaincra. C'est quand même extraordinaire. Ça en dit long, d'ailleurs, sur le débat sur la rationalité et l'irrationalité des dirigeants, sur lequel on reviendra peut-être. Et puis, ce qu'on ne savait pas non plus, c'est qu'il y avait un sous-marin soviétique dans lequel la question de l'usage de torpilles nucléaires pour forcer le blocus américain s'est véritablement posée. Trois personnes devaient donner leur accord. Deux ont donné leur accord. Une troisième ne l'a pas fait. C'est peut-être ça qui a évité la catastrophe atomique.
Votre dernier livre s'intitule « L'apocalypse n'est pas pour demain, on se fait peur avec des craintes très contrôlées hein. ». La fin du monde le 21 décembre 2012, on devrait avoir rétrospectivement davantage peur de ce qui s'était passé autour de Cuba, donc il y a un demi-siècle maintenant. Le contrôle, la limitation, ce sont de vieilles idées qui datent d'avant la crise de Cuba. Petit florilège de discours présidentiel américain, le premier date de 1953.
En rentrant de la conférence des Bermudes, le président Eisenhower a prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies un discours dont le retentissement international a été énorme. La proposition du président Eisenhower porte non seulement sur la limitation des armements atomiques, mais surtout sur la collaboration avec toutes les nations, et notamment l'URSS, pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Le président Johnson était aujourd'hui à Nashville, dans le Tennessee. Il a évoqué le problème de l'armement nucléaire.
Le temps est proche, a dit le chef de l'exécutif américain, le temps est proche où les États-Unis et l'Union soviétique pourront contrôler la course aux armements nucléaires.
Le président Nixon a proclamé aujourd'hui l'entrée en vigueur du traité de non-prolifération nucléaire.
Il s'agit là d'une journée historique, a affirmé le chef de l'exécutif américain au cours de la cérémonie de dépôt des instruments de ratification de ce traité.
Le traité de non-prolifération nucléaire est négocié entre Washington et Moscou, secondairement Londres, ouvert à la signature en 1968, temps du président Johnson, et il entre en vigueur, temps du président Nixon, en 1970.
Oui, les deux extraits que vous avez passés sont vraiment les deux moments clés de l'histoire du contrôle de la prolifération nucléaire. 1953, Eisenhower dit, écoutez, ce qu'on propose à la communauté internationale, c'est de la faire bénéficier de l'atome civil en échange de la renonciation à l'atome militaire. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 50, tout ce qui est nucléaire, c'est la modernité. On imagine qu'on va un jour avoir peut-être des voitures propulsées à l'énergie nucléaire. Tout ça, c'est vraiment le symbole même de la modernité technologique. C'est à ce moment-là qu'on crée l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et puis en 68, le deuxième extrait, le deuxième moment clé, c'est finalement un accord politique entre l'Union soviétique et les États-Unis pour dire il est de notre intérêt commun. Et là, on est 6 ans après Cuba, où on est déjà dans une forme de coexistence pacifique, où les deux grands reconnaissent des intérêts communs. Il est dans notre intérêt commun de limiter la prolifération nucléaire, car sinon nous allons un jour peut-être, nous les deux grands, être entraînés contre notre gré dans une guerre nucléaire déclenchée par des petits pays nucléaires. Et c'est d'ailleurs cet ordre-là, cet ordre bipolaire nucléaire, que des pays comme la France et la Chine refuseront.
Alors la France et la Chine refusent à peu près de manière concomitante, un peu pour en suivant la même argumentation. Le président Mao dit je ne veux pas être complètement dépendant de l'allié soviétique, même si c'est l'allié soviétique qui apporte beaucoup de technologies. Et le président de Gaulle dit je ne veux pas être dépendant de l'allié américain.
Oui,
mais la France se suffit à elle-même, elle, pour les technologies.
Oh, écoutez, aucun pays n'a fait la bombe à 100% tout seul. Simplement, certains pays l'ont fait à 10 ou 20% tout seul et d'autres à 90 ou 95% tout seul. Je dirais que c'est le cas de la France est quand même un exemple où on a fait à peu près tout nous-mêmes, mais personne n'a été totalement indépendant, même pas les États-Unis au temps du projet Manhattan. Alors effectivement, le point commun à l'époque, en tout cas entre le discours français et le discours chinois, c'est de dire faire la bombe, c'est une manière pour nous d'affirmer notre souveraineté, notamment par rapport à de grands protecteurs que sont les États-Unis et l'Union soviétique. Et c'est pour ça que votre parallèle est intéressant, même si tout de même les régimes politiques ne sont pas les mêmes. Et vous avez la rupture sino-soviétique et vous avez du côté occidental le retrait de l'organisation militaire intégrée par De Gaulle. Tout ça correspond tout à fait à la logique qui a été initiée par le programme nucléaire. Ce sont avant tout des démarches politiques d'affirmation de soi, de souveraineté, d'indépendance.
La France observait comment les pays qui étaient sur le seuil et qui se voyaient interdits l'accès.
Alors, dans les années 50 et 60, la France considère, pour faire simple, qu'il n'y a pas tellement de raisons qu'on refuse à d'autres ce qu'elle s'est elle-même autorisée. Et qu'après
donc, solidarité avec les victimes de la non-prolifération.
Oui, enfin, le terme de victime est un peu excessif, mais en tout cas,
la France l'a utilisé.
Il y a le sentiment que tout ceci est très injuste et qu'après tout, un monde où il y aurait plusieurs puissances nucléaires serait peut-être plus stable et plus sûr qu'un monde où il n'y aurait que deux pays nucléaires. Et c'est ce qui amènera d'ailleurs, enfin c'est une des raisons pour lesquelles la France va coopérer de manière très approfondie avec Israël, par exemple.
On y viendra.
On y viendra tout à l'heure. Et les choses ne vont véritablement changer qu'au milieu des années 70. Et c'est véritablement pendant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing que la France comprend, ou en tout cas que la France réalise que la dissémination généralisée de l'arme nucléaire ne serait pas forcément dans l'intérêt de la communauté internationale, ni dans son propre intérêt à elle.
Mais la Chine et la France vont finir par adhérer au traité de non-prolifération nucléaire.
Oui, mais au moment où la période de la guerre froide se termine. Ce n'est qu'après la fin de la guerre froide, ce n'est qu'après cette période de bipolarité, même si, attention, c'est amusant parce qu'on oublie toujours que des expressions qui nous semblent nouvelles étaient déjà employées à l'époque. La multipolarité, par exemple, ce n'est pas une expression qui date de l'après-guerre froide. On en parlait déjà à partir du moment où, justement, les Français et les Chinois avaient fait leur démonstration d'indépendance. Alors, fin de la guerre froide, on passe dans un autre monde, on essaye de construire un ordre politique mondial nouveau. Et puis, par ailleurs, en même temps, on découvre qu'il y a des pays qui font l'arme nucléaire sans qu'on s'en rende compte. Il y a le cas de l'Afrique du Sud. On découvre que l'Afrique du Sud avait un programme très avancé, avait même construit 6 bombes atomiques. Et puis, surtout, on découvre que l'Irak...
Oui, on va l'Irak, dire à l'Irak, mais l'Afrique du Sud l'a démantelé.
Oui, l'Afrique du Sud démantèle, mais ce que montre le cas sud-africain, c'est deux choses. D'abord, on peut avoir un programme nucléaire et aller jusqu'au seuil nucléaire et le franchir quasiment sans que personne ne le voie, puisque certains spécialistes et services de renseignement s'interrogeaient, bien sûr, mais en tout cas, il n'y avait rien publiquement. Et puis, par ailleurs, ça montre aussi que dans certaines circonstances, mais le cas est resté unique, si les conditions de sécurité changent radicalement, et c'est ce qui se passe avec la fin du soutien soviétique et cubain aux pays voisins de l'Afrique du Sud, alors certains pays peuvent se dire finalement, maintenant, je n'en ai plus besoin, même s'il y avait aussi peut-être dans l'esprit de certains dirigeants sud-africains l'idée de dire, si le régime de l'apartheid tombe, si nous changeons de régime, est-il bien raisonnable de laisser la bombe atomique entre les mains de la majorité de la population sud-africaine? Suivez mon regard. Donc cette démarche quelque peu raciste, elle existait encore aussi. C'est une des raisons, pas la seule, mais pas la raison principale, mais une des raisons pour lesquelles le gouvernement, le dernier gouvernement de l'apartheid, décide de démanteler ces bombes atomiques.
La France, elle, ne renonce jamais. Elle garde sa force de frappe, même si personne ne discute de son utilité, de son fonctionnement, de son coût dans la dernière campagne présidentielle. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais il est vrai que depuis le départ, toutes les conditions de sécurité sont réunies. En témoigne ce document de la Radio nationale française de 1960.
Il est H-2, nous sommes à 2 minutes de l'explosion. Les hommes viennent de prendre les positions de sécurité. Assis au sol, le dos vers la direction où explosera la bombe. Ils mettent la tête entre les genoux et se protègent les yeux avec les coudes repliés. Vers l'est, le jour commence à se lever. Plus qu'une minute et demie avant l'explosion, nous prenons tous les positions de sécurité. Moi-même, je cache ma figure dans mon bras. H-1, la dernière fusée vient de partir, une fusée rouge. Plus que 50 secondes. Plus que 45 secondes.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Petite histoire de la non-prolifération nucléaire avec Bruno Tertrais qui a publié de nombreux livres et même un atlas consacré au monde nucléaire. Ce livre prouve que la fabrication de la bombe, ça n'est pas aussi facile que le dit l'ingénieur Boris Vian. Le traité de non-prolifération de 68, il est fondamentalement inégalitaire. Il prétend maintenir dans la durée des dissymétries d'un moment et il va être considéré comme tel par de nombreux pays des zones chaudes d'Asie. Alors, je voudrais qu'on consacre, Bruno Tertrais, justement, la deuxième partie de cette marche de l'histoire à l'Asie. En commençant peut-être par Israël, puisque vous brûliez d'en parler. On n'a pas l'habitude de parler de l'arsenal israélien.
Ça dépend dans quel contexte on se place, parce que je peux vous dire que dans les conférences d'examen de ce fameux traité de non-prolifération qui ont lieu tous les 5 ans à New York, je peux vous dire que malheureusement, d'une certaine manière, on parle beaucoup plus d'Israël que de l'Iran. Autrement dit, on parle beaucoup plus d'un pays qui a déjà la bombe et donc on ne peut pas grand-chose y faire. Alors que un pays comme l'Iran, qui a un programme totalement illégal et à mon sens, en tout cas, beaucoup plus dangereux que celui d'Israël, on en parle beaucoup moins.
Donc, si j'essayais d'intervenir, c'est parce que Israël n'a jamais reconnu disposer d'un d'un arsenal nucléaire. Je vous propose d'écouter le président israélien actuel. En 1963, il était chargé des contacts avec la France pour les transferts de compétences, c'est Shimon Peres. Et puis suivra en 1981 le premier ministre Begin au moment du bombardement du réacteur irakien d'Ozirak.
On dit que vous avez la bombe atomique.
C'est pas sérieux.
Que la coopération franco-israélienne a porté entre parenthèses là-dessus.
Là, malheureusement, c'est seulement une rumeur, c'est pas vrai. Si nous serons attaqués, je suis sûr que nous avons les moyens de gagner une victoire militaire.
We shall not allow any enemy to develop weapons of mass destruction turned against us. There won't be another Holocaust in the history of the Jewish people. Never again, never again.
Israël ne peut tolérer la menace d'un nouvel holocauste.
Israel National Radio,
un moment de l'histoire juive. Au début des années 80, l'Irak de Saddam Hussein commence à construire le réacteur nucléaire Ozirak. Israël craint que l'Irak n'utilise ce réacteur pour produire des armes nucléaires et attaquer Israël. Après l'échec des négociations, le gouvernement de Begin décide de bombarder le réacteur. En juin 81, une escouade d'avions de chasse s'envole pour l'Irak et bombarde le réacteur.
Vous direz que dans les deux cas, Bruno Tertrais, Israël d'abord, puis l'Irak ensuite, ont bénéficié du transfert des compétences françaises. Mais enfin bon.
Oui, mais pas tout à fait de la même manière. L'aide accordée par la France au programme nucléaire israélien sous la 4e République, parce que De Gaulle mettra un terme à cette coopération, c'est de manière tout à fait assumée que les Français donnent un certain nombre de savoir-faire aux Israéliens. Ils savent très bien à quoi ça va servir. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu aussi de la coopération dans l'autre sens. Il y a eu des expertises scientifiques israéliennes qui ont été utiles au programme nucléaire français. C'était pas, on n'a pas donné. D'abord, on ne donne pas la bombe, on vend un réacteur et une usine de retraitement, enfin de ce qu'on appelle de séparation du plutonium. Mais à ma connaissance, on s'est arrêté là. On peut pas dire qu'on est un peu facilement comme ça qu'on ait donné la bombe. Mais en tout cas, sous la 4e République, on sait exactement ce qu'on fait. On aide les Israéliens à fabriquer la bombe atomique. On est à une époque, d'ailleurs, où il y a énormément de sympathie et de coopération mutuelle entre les deux gouvernements, les gouvernements travaillistes israéliens et les gouvernements français de la 4e République. Alors, les Israéliens n'ont jamais dit « on n'a pas la bombe ». Ils disent pas « on a la bombe ». Si vous voulez, d'une certaine manière, en restant en dehors de ce fameux traité de non-prolifération, d'une certaine manière, ils avouent implicitement qu'ils l'ont, mais simplement ils ne veulent pas se mettre en contravention avec le droit international, donc ils n'ont pas signé le traité, parce que s'ils avaient signé le traité, ils mentiraient d'une certaine manière. Donc il y a une espèce de on peut approuver ou désapprouver ou ne pas porter de jugement d'ailleurs sur le programme nucléaire israélien, mais en tout cas du point de vue du droit international, il n'y a pas de problème. C'est de la même situation d'ailleurs que pour l'Inde et le Pakistan.
On va en venir à l'Inde et au Pakistan. Je reviens un instant sur l'Irak 1981. Oui. Le Quai d'Orsay qui était hostile sous la 4e République, semble-t-il, au transfert trop important de compétences vers Israël, était en revanche partisan, l'été 81, Claude Cheysson ministre, de reconstruire, non pas le réacteur qui était irréparable, mais l'usine voisine.
C'est à l'époque, si vous voulez, où il y a ce qu'on appelle la grande politique arabe de la France. Je n'ai jamais trop compris ni ce que c'était, ni ce que ça devait produire, ni ce que ça nous a rapporté. Mais en tout cas, il y a très clairement à l'époque l'idée, qui est d'ailleurs une idée portée par Jacques Chirac, Premier ministre, avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, et de dire qu'il faut soutenir un pays tel que l'Irak, qui à l'époque est considéré comme le grand chantre de la modernité, de la modernisation du monde arabe. Et il y a une espèce d'aveuglement des dirigeants français sur ses intentions, alors que d'ailleurs, il en parlait très ouvertement. Et il y a encore les restes de... Vous savez, la politique, c'est comme un tanker, hein, ça bouge pas, ça change pas de direction du jour au lendemain. Donc la politique française, à l'époque, elle hésite encore entre deux voies, entre le passé où on fait pas trop attention à la dissémination nucléaire, et puis la période actuelle où on considère que c'est trop dangereux. Donc là, pour l'Irak, on n'a pas fait comme avec Israël, mais on n'a pas été très prudent.
Restons en Asie, je vous ai arrêté au moment où vous vouliez aller, telle une flèche, à la plus grande vitesse possible, vers l'autre zone chaude, qui est celle de l'Inde et du Pakistan. Autant Israël reste discret, expliquez-vous, autant l'Inde proclame sa volonté d'avoir une force indépendante. Toujours un peu le modèle français, d'ailleurs, de discours.
C'est pas totalement faux. L'Inde a toujours été très jalouse de son non-alignement. Et l'Inde est un pays qui, à travers le nucléaire, prend, un peu comme la Chine d'ailleurs, une sorte de revanche contre le colonialisme, affirme son indépendance. Et d'ailleurs, elle le disait juste avant les essais de 1998, c'était une manière pour elle d'essayer de rentrer par la petite porte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Indiens pensaient à tort d'ailleurs que ça faciliterait. Là où ils ont eu raison d'une certaine manière, c'est qu'on les prend davantage au sérieux aujourd'hui en tant que puissance nucléaire, parce que ça s'est accompagné d'un formidable décollage économique, etc. Mais en même temps, ils se sont trompés lorsqu'ils ont cru que ces essais nucléaires les aideraient à obtenir ce qu'ils convoitent, à savoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Qui dit bombe indienne dit, à terme, par effet presque prévisible, une bombe pakistanaise mise au point dès l'époque d'Ali Bhutto, avec notamment, parmi ses artisans, Abdul Qader Khan. Que les pouvoirs publics pakistanais ont dû, au début des années 2000, mettre un peu de côté, parce qu'il avait été dénoncé comme disséminateur, je renvoie à l'un de vos livres, le marché noir de la bombe, mais qui ressurgit à la veille des élections pakistanaises. Reportage de France 24 de ce 20 octobre 2012.
Dans ce grand hôtel de Lahore, un meeting où les médias étrangers ne sont pas les bienvenus. La tête d'affiche, c'est le docteur Abdul Qadir Khan, le père controversé de la bombe nucléaire pakistanaise. En 2004, il fait scandale en révélant avoir vendu la technologie nucléaire en Iran, Corée du Nord et Libye. Time Magazine le surnomme le marchand de menaces. Ce jour-là, dans la ville où il a construit la bombe, il lance son mouvement politique. Son rôle dans la prolifération nucléaire, il en fait son principal argument électoral.
Cette technologie, c'est la mienne. Je l'ai apportée gratuitement au Pakistan. Personne ne m'a donné de l'argent pour cela. Donc c'est ma technologie et je la donne à qui je veux.
Eh ben, c'est prometteur. Dans le jardin, racontez ça dans votre livre, de ce monsieur, il y a un buisson de jasmin qui est taillé comment ?
En forme de champignon atomique.
Ça vous fait rire.
Non, mais ça, il faut bien se détendre un petit peu de temps en temps. C'est quand même des sujets un peu trop sinistres parfois. Et écoutez, Abdul Qadir Khan, qui n'est pas d'ailleurs le père de la bombe atomique pakistanaise, il aimerait bien être considéré comme tel, mais ça n'est qu'un des géniteurs de ce programme, est un type qui a la grosse tête, qui est persuadé que c'est lui qui a d'abord tout fait dans le programme nucléaire, et puis surtout, c'est lui qui permet au Pakistan et aux pays musulmans de se protéger contre les affreux occidentaux. Et d'une certaine manière, il assume en partie, en tout cas, avoir effectivement aidé d'autres pays. En tout cas, il a un discours un peu ambigu. Il dit « je ne l'ai pas fait » ou « si je l'ai fait, c'est sur ordre » et puis « si je l'ai fait, de toute façon, où est le mal ?» etc. Donc, et là où son rôle a vraiment été tragiquement important, c'est que non seulement, au-delà du Pakistan, c'est qu'il a mis sur le marché, quand je dis le marché, c'est véritablement au sens mondial du terme, parce que ce sont des plans qui ont été digitalisés et qui sont partis dans le cyberespace, on ne sait trop où. Non seulement la manière, la recette, si vous voulez, de la bombe atomique, au sens où, voilà, comment construire une centrifugeuse pour faire de l'uranium enrichi, etc., mais aussi des plans d'armes nucléaires. Et ça, c'est extrêmement grave, malheureusement. Et là, il a une responsabilité tragique. Si un jour, il y a une bombe atomique qui explose quelque part dans le monde, ça sera peut-être à cause de lui.
Et dans l'espace réel, je ne parle pas du cyberespace, il possède un hôtel à Tombouctou. Ça promet. Dernière question, Bruno Tertrais, sur l'Asie. La politique de non-prolifération n'a pas été franchement approuvée par tous les pays d'Asie, peut-être même pas par la Chine, même si elle est signataire du traité. Et en Asie, la Seconde Guerre n'est pas liquidée.
C'est le grand problème stratégique de notre temps, à mon sens. Si vous voulez, en Asie, vous avez à la fois des arsenaux militaires et nucléaires en croissance et des contentieux territoriaux, des jalousies, des haines, des nationalismes qui finalement montrent que la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée en Asie. Et ce cocktail détonnant, malheureusement, me semble extrêmement préoccupant. Il y a encore aujourd'hui, quelque part sur la planète, et c'est en Asie, au moins deux ou trois risques de conflits majeurs potentiels qui pourraient devenir nucléaires.
Reste à parier sur la sagesse des dirigeants, ceux d'Asie et notamment du Proche-Orient.
La tension monte alors que le bras de fer entre la communauté internationale et l'État voyou nord-africain, la Wadia, s'est aggravé aujourd'hui lorsque les inspecteurs de l'ONU se sont vus une fois encore refoulés à la frontière par le leader wadien, l'amiral général Aladdin.
Peuple de Wadia, je viens à vous aujourd'hui vous dire que le monde va s'agenouiller devant notre grande nation. Nous aurons notre propre uranium de qualité militaire d'ici 2 mois. Une production uniquement à usage pacifique. Il sera consacré à la recherche médicale et aux énergies écologiques. Vous verrez, vous verrez.
Voilà, les dirigeants du Proche-Orient ou d'Afrique du Nord ne sont peut-être pas moins rationnels que les autres, mais il n'est pas sûr qu'ils le soient davantage. C'est le film bien connu avec Sacha Baron Cohen. Vos livres, on les trouve sur le site de La Marche de l'Histoire, Bruno Tertrais, Philippe Duclos, Yann Bouillot, Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux, Jalaguier. C'est l'équipe de La Marche de l'Histoire.